Le but marqué à 2 minutes 22 par Christina Dimitriou. Avec l'aide de Sébastiano Brunet, Lucie Beaulieu, Tarek Malki, Jenny Agostino, Edith Chen, Emmanuel Jean-Pierre.
Au hockey, comme en immobilier, pour réussir, ça prend toute une équipe. Et avec vos 5000 courtiers Remax, la force du réseau roule pour vous. Remax est heureuse de s'associer à Martin McGoyeux et Danny Dubé pour vous présenter le tout nouveau balado Bon Match.
C'est 23.
Voici la commission Normando-Ferrandaise.
Alors, premier sujet pour les commissaires ce matin, puis on a vu cette sortie rarissime d'un procureur de la Couronne suite à une peine d'emprisonnement à domicile, alors que le procureur a dit M. Lametti, le ministre, et M. Trudeau devraient réfléchir un peu puis penser aux victimes, parce que la loi fédérale a été modifiée de telle sorte que certains crimes où il y avait une sentence de prison automatique s'est remplacé par des sentences, disons, qui peuvent être, comme on a vu cette semaine, purgé à domicile. Donc, la question ce matin, est-ce que M. Trudeau doit réajuster le tir pour éviter, justement, qu'un agresseur sexuel purge sa peine chez lui? Nathalie.
Pensons-y deux secondes. Purger ta peine à domicile, j'ai envie de vous dire un chausson avec ça, là. Ce que le juge a fait, c'est comme lui offrir des vacances au Club Med. Moi, je le vois comme ça. Et tu fais bien insister sur le fait que le procureur, dans une sortie rarissime, lance un appel au gouvernement fédéral, parce que si ces peines avec sursis sont possibles, c'est parce qu'elles ont été incluses dans le projet de loi C5 déposé par le gouvernement de Justin Trudeau. En fait, l'objectif au départ du ministre et du premier ministre, parce que c'est dans la lettre mandat du ministre de la Justice, M. Lametti, c'est de trouver des solutions à la surreprésentation des Noirs, des Autochtones, de certaines minorités dans nos prisons. Et la façon qu'ils ont trouvé pour s'attaquer à ce problème de surreprésentation, c'est de permettre l'ordonnance de sursis. Et l'ordonnance de sursis, c'est quoi? C'est que ça permet à un délinquant, et là je cite la loi, le texte de loi, permet au délinquant de purger sa peine dans la collectivité sous réserve de conditions strictes telles que le confinement au domicile, le couvre-feu, la thérapie, etc. Dans ce cas-ci, ce qui est assez particulier, c'est que l'avocat de la défense proposait une peine de 80 jours à faire les week-ends. La Couronne proposait 15 mois d'emprisonnement, mais c'est le juge qui a proposé cette ordonnance de sursis en se référant à une décision de la Cour suprême, parce qu'il faut savoir que la Cour suprême a démoli toutes les causes qui impliquaient une peine minimale obligatoire. Alors, dans ce cas-ci, j'ai envie de vous dire que oui, ce serait bien que le gouvernement fédéral réfléchisse, parce que ce genre de situation est choquante, parce que moi, je pense qu'un accusé, condamné pour agression sexuelle devrait se retrouver à un endroit, la prison, en prison.
Ben, écoute, en 2000, c'est la Cour suprême qui a introduit la peine avec sursis. Ça n'existait pas. Ça n'a jamais été voté par le Parlement. C'est la Cour suprême qui a pris cette décision-là dans un cas de conduite dangereuse ayant causé la mort. Et à partir du moment où cette décision a été prise, il y a eu 50 000 cas en 4 ans qui ont été décrétés à travers le pays jusqu'à temps que Harper décide que les peines minimales étaient rétablies. Donc, il y avait une urgence, il y avait un besoin. Quand c'est 50 000 cas, c'est tous des juges qui se connaissent pas, là. Des juges qui se connaissent pas ont tous décidé, ah non, lui, on l'envoie pas en prison. Donc, il y a des cas pour lesquels la prison n'est peut-être pas toujours la meilleure chose. Par exemple, une femme qui a été accusée d'avoir tué son mari, donc homicide volontaire, mais elle avait des conditions psychologiques post-traumatiques extrêmement graves, cette femme-là. Avait besoin d'être soignée, avait pas besoin d'être emprisonnée. Un autre cas de gars qui a tué son père, là encore, je prends les pires cas, là, le cas d'homicide volontaire. Ce sont des cas rarement assujettis à la peine avec sursis, homicide volontaire. Il a tué son père, mais il avait vécu toute sa vie dans des conditions de violence épouvantables que le juge arrivait à peine à décrire. Donc, il y avait un besoin pour faire la peine avec sursis. Mais maintenant qu'on a dit ça, il faut voir comment est appliqué. Et moi, je n'arrive plus à comprendre la justice. Là, évidemment, je suis ni avocat ni juge, mais j'ai des choses devant les yeux qui me permettent de dire il y a quelque chose qui marche pas, là. De voir Edgar Foutier prendre le chemin des prisons alors qu'il est accusé d'attouchement 2 fois à 3 ans de différence, même pas d'attouchement sur les parties génitales, juste avoir saisi le corps de l'autre. de prendre le chemin de la prison, alors que le cas qu'on a devant les yeux, c'est pénétration anale, alors que la femme se débattait, criait, hurlait, griffait, a demandé sans arrêt l'arrêt, a supplié que ça arrête. Donc, tu vois bien que là, quand t'as des cas comme ça, là, les avocats vont nous expliquer, oui, mais il y a des conditions, il y a la réhabilitation, il y a la récidive, il y a ci, il y a ça. Non, là, on comprend plus, là. Là, on comprend plus. Ce qu'on comprend, c'est que les juges prennent des décisions qui, parfois, on l'a vu avec Hull, avec Simon Hull. Le juge a pris une décision surprenante. Tout le monde était là, c'est surprenant. Et la cour d'appel a confirmé cette surprise de la population en disant, c'est injustifié comme décision. Alors, l'emprisonnement avec sursis, ce qui est particulier, ce n'est pas un emprisonnement à la maison. Tu as le droit, si les conditions vont être déterminées par le juge, appliquées par un service correctionnel, tu peux sortir, il y a des gens qui peuvent sortir en tout temps. Tu peux aller travailler, tu peux vaquer aux occupations familiales. Parfois, tu es soumis à un couvre-feu, parfois, tu ne l'es pas. Les conditions changent beaucoup, beaucoup, beaucoup d'un cas à l'autre. Et un des éléments dans les conditions, c'est que le juge doit prendre en considération la possibilité de l'implanter. Si, par exemple, il juge que tu devrais te présenter au poste de police tous les soirs à 6 heures, mais il n'y a pas de poste de police proche de chez toi et les policiers ne sont pas disponibles, il ne mettra pas cette condition-là. Donc, ça dépend aussi de la possibilité de la société de faire respecter les conditions. Moi, je ne comprends plus rien.
Ouais, moi, ben, ce que je comprends, moi, Luc, parce que là, on parle de cas d'agression sexuelle. Avec tout ce qu'on a entendu dernièrement à propos des agressions sexuelles, une victime s'attend à ce qu'un accusé condamné prenne le chemin de la prison. Et on s'attend aussi, le public s'attend à ce que les peines qui soient imposées par les tribunaux soient justes. C'est-à-dire qu'une juste étant que la sentence doit refléter le crime qui a été commis. Le point que tu soulèves, que j'allais également soulever, qui est fort pertinent, c'est la disparité des peines d'un palais de justice à l'autre. Là, tu dois donner cet exemple-là. Jonathan Gravel, un gars de l'Île-Perrot, tu as expliqué le contexte. Ce gars-là, en passant, il faut ajouter qu'il a été condamné une première fois. Il a été condamné pour agression sexuelle en 2018. Mais le gars a fait traîner les choses de façon telle que cette sentence, elle est arrivée 4 ans après sa condamnation. Il a changé d'avocat, il a reproché au service de police de la Ville de Montréal d'avoir mal fait son enquête. Enfin, ce qui fait qu'aujourd'hui, il peut bénéficier d'une peine avec sursis. Moi, j'en viens toujours pas, et je le dis très, très, très candidement, quand on parle de disparité des peines, ce gars-là va se retrouver à la maison alors que Harold Lebel, condamné à 18 mois de prison, il va se retrouver sur la liste des délinquants sexuels pour 20 ans.
À 8 mois de prison.
8 mois de prison, oui. Avec sur la liste des délinquants sexuels pour 20 ans, ça marche pas, là. Il y a quelque chose que moi, je te suis, Luc, il y a quelque chose que je ne comprends pas. En fait, il s'agit pas de minimiser le ce que vit la victime, bien au contraire, mais c'est d'avoir une peine qui reflète la nature du crime. Mais ce gars-là qui a violé une femme, ben, il va se retrouver, il va faire des travaux communautaires, il va se retrouver à la maison. Aux yeux du public, là, on a l'impression que ce gars-là, il n'a pas payé pour son crime. Et la sentence qui lui a été, décidée par le juge ne rend pas justice à la nature, à l'intensité du crime qui était commis. Mais t'as raison de dire qu'on prend, que des fois, on se pose des questions, effectivement, sur.
En regardant les conditions, en regardant les analyses de la Cour suprême, il y a un seul critère, c'est le risque de récidive. Bon, OK, évidemment qu'il faut que ça soit pour un crime de 2 ans et moins, donc une accusation de 2 ans et moins.
Ben, Harold Lebel, je pense pas qu'il y avait de risque de récidive, tu comprends?
Mais pourtant, c'est ça. Le seul critère, c'est la récidive. Et même que la question que tu poses, de savoir l'impact sur la victime, puis le préjudice, donc la possibilité que la victime vive avec des conséquences graves, d'une part, mm-hmm. et d'autre part, s'il y avait récidive, c'est un préjudice aggravé, parce que là, la personne est libérée, puis elle recommence, c'est un préjudice aggravé, et donc... ce préjudice-là n'est pas pris en considération. C'est la récidive seulement. La récidive.
Mais je vais donner un exemple. En fait, deux qu'on a vus en Ontario récemment, dans les cas de crimes graves contre les femmes. Violence conjugale. Un gars qui poignarde son ex au cou, il a failli la tuer. Le premier juge donne 7 ans de prison. La cour d'appel dit 15 ans. Et dans la décision, les juges ont dit, la réhabilitation, c'est bien beau, là, mais on doit tenir compte d'abord, quand on rend sentence, un, de ce que la société va penser, le message qu'on envoie, et aussi la gravité du geste posé, là, c'est bien beau de dire qu'il faut penser à ce qu'il soit réhabilité, mais tu comprends? Alors, on a doublé. Dans le cas des crimes contre les enfants, depuis un an, deux ans, les peines sont plus lourdes qu'avant. Il y a une jurisprudence qui est en train de s'établir parce qu'on considère que c'est plus grave de commettre un crime contre un enfant. Bon, t'sais, je trouve que les tribunaux évoluent. Il y a toujours, comme on dit, des jugements étonnants, là, des surprises.
Oui, les tribunaux évoluent, mais ce qu'on deux profanes comme Nathalie et moi dénonçons, c'est la diversité des peines. C'est qu'on comprend pas. Ben, tu le dis, là, regarde, 7 ans, 15 ans, là, il y a quand même un écart.
Mais pas mal, oui.
Mais donc, on se rend compte que la justice, c'est l'exercice du jugement d'une personne. Ben, il y a des règles, évidemment, à suivre.
Oui, il y a le code criminel.
Et puis, les procureurs vont peut-être faire une proposition commune, etc. Mais il y a encore énormément de place pour des divergences. Et c'est ce que la loi voulait, là. En enlevant les peines minimales, on veut que le juge exerce son jugement. Mais le jugement, c'est pas donné à tout le monde, même pas au juge.
On s'arrête là-dessus. Et au retour, Bob Hall, qui est décédé, une étoile du hockey, mais disons une vie personnelle avec bien des tâches, est-ce qu'on peut quand même admirer l'athlète en tenant pas compte de ce qu'il a fait dans sa vie? C'est la question, on va en débattre.
La commission Normando-Ferrandaise.
Alors, Bob Hall est une star, il est décédé cette semaine, personne ne peut contester ses talents, les records et bref, une carrière assez exceptionnelle. Mais en même temps, il y a un côté sombre, c'est-à-dire de la violence conjugale, des propos racistes qu'il a tenus pour ensuite nier, en tout cas c'est ce qu'il a dit. Bref, un peu comme la question se pose avec certains artistes, est-ce qu'on peut oublier le passé sombre pour se concentrer seulement sur les performances athlétiques d'un gars comme Bob Hall? Luc?
Moi, je dirais que oui, parce que le jugement de la population sur le passé des personnes est extrêmement variable. Mais je vais donner des exemples. En fait, c'est loin. Tu sais, on a dit tantôt que les jugements faits par la Cour avec des règles de jurisprudence, puis des lois, puis des encadrements varient énormément d'un cas à l'autre. Imagine-toi quand c'est le tribunal populaire. Quand c'est le tribunal populaire, ça varie. Tu dis, comment ça se fait que... Tu sais, des vedettes là que on considère aujourd'hui avec beaucoup de considération, tu sais, Mark Wahlberg, qui était un petit criminel raciste quand il était jeune, a fait un crime odieux sur un Asiatique où il l'avait attaché, il avait bandé les yeux, il l'avait frappé. Sean Penn qui a agressé Madonna à plusieurs reprises, dont une fois qu'un bat de baseball. Tu sais, Will Smith, avant de donner sa claque, là, Will Smith, on avait pas mal tout pardonné, il volait au sommet, mais Will Smith avait poignardé un producteur de disques. Mike Tyson, victime de viol. Michael Jackson. Tu sais, les vedettes, Charlie Sheen, il y en a tellement, il y en a. Puis dans le domaine du sport, Floyd Mayweather, très connu. Ici au Québec, Adonis Stevenson, qui a été accusé de proxénétisme, il avait engagé des prostituées, ben, il les avait recrutées de force, il les gardait de force, il les emprisonnait, il les battait. Bon, puis après ça, il est revenu à la gloire. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on décide, dans un cas, toi, t'as encore le droit à la gloire, puis toi, dans un autre cas, non, toi, non. C'est tellement aléatoire que moi, je ferais une différence entre... oui, tu peux perdre de la popularité. Oui, on peut te juger en disant « Hey, moi, je ne l'oublierai pas ce que tu as fait. » D'ailleurs, moi, je n'oublie pas les crimes financiers non plus. Mais si, tout le monde lui pardonne, lui donne le bon Dieu sans confession, tu sais, il a fait une fraude fiscale gigantesque. Shakira a fait des fraudes fiscales gigantesques. Donc, moi, je ferais la différence entre on peut individuellement dénoncer, rappeler que ces personnes-là sont loin d'être pures. Mais de là à dire officiellement que t'as pas le droit à tes titres de gloire, ben je trouve que c'est trop aléatoire pour prendre cette décision-là.
Moi, je trouve ça assez fascinant, ce phénomène. Il y a la vénération d'un artiste. En préparant le sujet, je me disais hier, sur la base d'une simple rumeur, d'un comportement déplacé, un député de l'Assemblée nationale ou de la Chambre des communes peut perdre son poste sans jamais que la personne ait été accusée ou formellement jugée par la justice. C'est assez fascinant. Dans le cas de Bob Hall, vous l'avez bien dit, ce gars-là, écoutez, était nommé au Temple de la renommée, fait ambassadeur par les Blackhawks de Chicago, un club pour lequel il a joué pendant 15 ans. Ça fait seulement quelques années qu'on commence un peu du bout des lèvres à remettre, en fait, à exposer sur la place publique le passé de Bob Éole. Alors, et je dirais la seule exception sur le plan politique, parce que c'est comme s'il y avait deux poids, deux mesures. Il y a le monde, il y a le milieu des artistes, il y a le milieu sportif, il y a le milieu politique. Dans le milieu politique, je pense que l'exception, c'est René Lévesque. René Lévesque qui a frappé une personne, un itinérant. Bon, évidemment, mais de René Lévesque, on a mis ça rapidement sous le tapis. C'est devenu l'idole des foules. Alors, oui, c'est un phénomène assez fascinant. C'est peut-être lié à la génération. Je sais pas. Dans le cas de Bob Éole, la génération du gars qui arrive sur la glace, tu sais, est capable de se battre. Oh, ça vient avec, là, tu sais, le gars, il fait ce qu'il a à faire sur la patinoire, puis il a peur de rien. On il pardonne ça, là, rendu à la maison. On en laisse passer. C'est comme si on était dans le déni. C'est comme si la vénération qu'on prête à un artiste, à un sportif, fait en sorte qu'on a tendance à nier une certaine réalité. C'est comme si on se préfère se boucher les oreilles, se fermer les yeux. Prenez l'exemple de Michael Jackson. Une certaine époque, des stations de radio ont boycotté ses chansons. Aujourd'hui, qui boycotte encore les chansons de Michael Jackson?
Mais l'exemple qu'on pourrait prendre au Québec, c'est Éric Lapointe, qui a été condamné pour violence conjugale. Il a pas arrêté de tourner, là. Il fait ses shows. Peut-être moins à la télé, moins, mais quand même, là, il fait carrière. Puis ça n'a pas l'air de l'affecter. D'autres sont, par contre, mis sur la tablette, puis on barre la porte, là.
Mais c'est drôle parce que Éric Lapointe, il a été jugé, il a reconnu sa culpabilité. Il y a des cas où c'était des cas d'attouchement, tu sais. Yann Perrault, il y a rien qui est sorti comme quoi c'est des agressions majeures, là. Il a touché les fesses d'une fille dans une discothèque. C'est pour ça que je dis que c'est extrêmement, extrêmement aléatoire. Puis, je pense qu'il y a plusieurs éléments à prendre en considération. Le passé trouble d'un boxeur, là, ou d'un joueur de hockey, fait quasiment partie de sa légende. Le passé trouble d'Adonis Stevenson, t'es abandonné dans la rue. D'abord, il a été élevé par sa grand-mère en Haïti, puis après ça, il retourne à Montréal, famille de 9 enfants, abandonné dans la rue, rejoint un gang de rue. Ça fait partie du mythe du boxeur. Mais sauf que c'était odieux ce qu'il a fait. Là, c'était terriblement odieux. Une autre affaire, il y a l'époque aussi. Il y a des cas comme par exemple Woody Allen, Roman Polanski. C'est une époque différente. Aujourd'hui, j'ai pas l'impression. Roman Polanski maintenant est un peu mis au banc de la société, mais pendant des années, tout le monde débattait sur la possibilité de le réintégrer. Il a fallu qu'il soit accusé à répétition.
Écoute,
là,
je me souviens, il y a quelques années, Bertrand Cantat du groupe Noir Silence, tué Marie Trintignant à coup de poing. Il est allé en prison et on avait décidé de l'inviter à venir performer à Montréal. Puis ça avait été le tollé. Puis finalement, il est pas venu. Puis le débat, c'était, est-ce qu'on oublie qu'il a tué sa conjointe? Puis on va voir interpréter ses tunes parce qu'on aime sa musique.
Ben voilà.
Mais là, le public agit comme une sorte de tribunal. Luc, tu as parlé de l'époque. L'époque est importante. Logan Mayou, prenez l'exemple de Logan Mayou. Le petit gars, là, oubliez ça, là. C'est comme ça va le suivre probablement durant une grande partie de sa carrière. Alors, aujourd'hui, en 2023, tu as parlé d'Éric Lapointe, mais c'est le public dans ce cas-ci qui a droit de vie ou de mort sur le passé d'un artiste, d'un sportif. Écoute, dans certains cas, ça passe. Dans d'autres cas, ça ne passe pas.
Dans le cas d'Éric Lapointe, les fans ont passé à autre chose.
Il y a un autre cas, je pense, où c'est passé à autre chose. Il a reconnu sa culpabilité.
Pour moi, c'est super important, ça.
Mais il y a un cas, je pense, que si tu veux vraiment te faire pardonner un ensemble de crimes majeurs, présente-toi président des États-Unis.
Tellement.
90 accusations contre Donald Trump.
Pas juste accusation, il était condamné pour fraude fiscale récemment à payer 1,6 million de dollars par une procureure de New York. Non, le gars, il revient. Non, mais dans ce cas-ci, ça frise la folie, là, leur affaire.
Ben oui, moi, j'aimerais ça montrer comment c'est la divergence entre deux gars, Claude Jutras, Pierre Bourgault. Claude Jutras a été accusé à titre posthume par une seule personne. On a enlevé le nom de Claude Jutras a disparu de l'espace public. Il y avait une place publique que Claude Jutras sur le plateau Mont-Royal. On l'a enlevé à la vitesse de l'éclair. J'étais en mer dans ce temps-là, mais la recommandation, c'est away. Même l'œuvre d'art qui ne représentait pas Claude Jutras, qui représentait le cinéma, a été retirée. Et d'autre part, Pierre Bourgault, qui lui reconnaissait quasiment sa place publique, que lui avait une préférence pour les jeunes hommes. Puis, il ne s'est jamais rien passé. Fait que le tribunal populaire, il ne marche pas, là. Il ne marche pas, fait que je sais pas c'est quoi la conclusion, mais je peux dire que on a trop d'exemples qui démontrent que le tribunal populaire est à vitesse variable.
Merci à tous les deux. On vous souhaite une bonne journée. On vous retrouve demain.
C'est 23.